Chapitre 22. Une fois assuré que sa crise était passée, bien qu'un gloussement montât encore de temps en temps dans sa gorge comme une secousse résiduelle, et que son père s'était enfermé dans son bureau avec ses cigarettes, son scotch, sa paperasse et son petit flacon de poudre blanche, Jake retourna s'asseoir à son bureau, alluma la lampe et ouvrit Charlie le Chouchou. Il jeta un bref coup d'œil aux premières pages et vit que le livre était sorti en 1952. Il avait en sa possession un exemplaire de la 4e édition. Il regarda en 4e page de couverture, mais on n'y donnait aucun renseignement sur l'auteur Beryl Evans. Jake rouvrit le livre à sa première page, examina un dessin représentant un homme blond assis dans la cabine d'une locomotive à vapeur, s'attarda sur son sourire fier, puis se mit à lire. Bob Brooks travaillait comme mécanicien pour la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes et faisait régulièrement le trajet de Saint-Louis à Topeka. Bob le mécano était le meilleur conducteur de la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes et Charlie était le meilleur train. Charlie était une locomotive à vapeur 402 Big Boy et Bob le mécano était le seul homme à avoir la permission de s'asseoir dans sa cabine et de tirer sur le cordon de son sifflet. Tout le monde connaissait le « wouhou » du sifflet de Charlie et chaque fois que les gens l'entendaient résonner dans la plaine du Kansas, il disait « Voilà Charlie et Bob le mécano, l'équipe la plus rapide de la ligne Saint-Louis-Topeka ». Les petits garçons et les petites filles couraient dans leur jardin pour voir passer Charlie et Bob le mécano. Bob le mécano leur souriait et les saluait d'un grand geste de la main. Les enfants lui rendaient son sourire et son salut. Bob le mécano avait un grand secret. Il était le seul à savoir que Charlie le Chouchou était bel et bien vivant. Un jour, alors qu'ils allaient de Topeka à Saint-Louis, Bob le mécano entendit quelqu'un chanter à voix basse. « Qui est dans la cabine avec moi ?» dit Bob le mécano d'une voix sévère. « T'as besoin d'aller voir un psy, Bob le mécano, » murmura Jake en tournant la page. Il découvrit un dessin montrant Bob le mécano penché sous le foyer automatique de Charlie le Chouchou. Jake se demanda qui conduisait le train et guettait l'apparition sur la voie d'une vache égarée ou d'un petit garçon ou d'une petite fille, pendant que Bob cherchait un passager clandestin dans sa cabine et conclut que Beryl Evans ne devait pas connaître grand-chose au train.
« Ne t'inquiète pas, » dit une petite voix bourrue. « Ce n'est que moi. »«
Qui ça, moi ?» demanda Bob le mécano. Il prit sa voix la plus sévère car il pensait encore que quelqu'un lui faisait une farce.
« Charlie, » dit la petite voix bourrue.
« Ah 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 !» dit Bob le mécano. « Les trains ne savent pas parler. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais au moins ça. Si tu es vraiment Charlie, je suppose que tu es capable de faire marcher toi-même ton sifflet. »«
Bien sûr, » dit la petite voix bourrue. Et le sifflet fit entendre son joyeux cri qui résonna dans la plaine du Missouri.
« Wouhou !»« Bonté divine !» dit Bob le mécano. « C'est vraiment toi ?»
« Je l'avais dit, » dit Charlie le Chouchou.
« Comment se fait-il que je n'ai jamais su que tu étais vivant ?» demanda Bob le mécano. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé avant aujourd'hui ?»
Alors Charlie chanta sa chanson à Bob le mécano de sa petite voix bourrue.
« Ne me pose pas de questions bêtes, je ne jouerai pas à tes jeux bêtes. Je ne suis qu'un brave train Chouchou qui est toujours plein d'entrain. Je veux courir le long des rails, sous le ciel d'un bleu d'azur, et rester un brave train Chouchou jusqu'à l'heure de ma mort.
Est-ce que tu me parleras encore la prochaine fois qu'on fera le trajet ensemble ? Demanda Bob le mécano. Cela me ferait très plaisir.
À moi aussi, dit Charlie.
Je t'aime, Bob le mécano.
Moi aussi je t'aime, Charlie, dit Bob le mécano, et il tira sur le cordon du sifflet, rien que pour montrer comme il était heureux.
« Wouhou !» C'était le coup de sifflet le plus beau et le plus fort que Charlie ait jamais poussé, et tous ceux qui l'entendirent sortirent de chez eux pour le voir passer.
Le dessin qui illustrait cette scène était identique à celui qui figurait en couverture du livre. Sur les illustrations précédentes, des esquisses à peine achevées qui rappelaient à Jake celle d'un livre qu'il avait dévoré à la maternelle, Mike Mulligan et sa pelleteuse à vapeur, la locomotive n'était qu'une machine des plus ordinaires. Joviale, propre à déchaîner l'enthousiasme des enfants des années 50 auxquels le livre était destiné, mais néanmoins une locomotive comme les autres. Mais sur cette dernière illustration, elle avait des traits de toute évidence humains, et Jake sentit un frisson lui parcourir l'échine en dépit du sourire de Charlie et de la gentillesse bétifiante du récit. Ce sourire ne lui inspirait aucune confiance. Il attrapa sa composition et la parcourut du regard. « Je suis pratiquement sûr que Blaine est dangereux et c'est la vérité. » Lut-il. Il referma la chemise, la tapota d'un air pensif pendant quelques secondes, puis revint à Charlie le chouchou. Bob le mécano et Charlie passèrent ensemble maintes journées de bonheur et parlèrent de maintes choses. Bob le mécano vivait seul et Charlie était son premier véritable ami depuis que sa femme était morte à New York il y avait longtemps de cela. Puis, un jour, alors que Charlie et Bob le mécano revenaient à la rotonde de Saint-Louis, ils trouvèrent une locomotive diesel toute neuve sur la voie de garage réservée à Charlie. « Quelle superbe locomotive diesel, c'était là !» 5000 chevaux vapeur, un attelage en acier inoxydable, un moteur sorti des usines d'Utica dans l'État de New York, et derrière le générateur, il y avait 3 ventilateurs électriques jaune vif.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Bob le mécano d'une voix inquiète. Mais Charlie se contenta de chanter sa chanson de sa voix la plus nette et la plus bourrue.
« Ne me pose pas la question bête. » Je ne jouerai pas à tes jeux bêtes. Je ne suis qu'un brave train chouchou qui est toujours plein d'entrain. Je veux courir le long des rails sous le ciel d'un bleu d'azur et rester un brave train chouchou jusqu'à l'heure de ma mort.
Monsieur Briggs, le directeur de la rotonde, vint alors les voir.
« C'est une superbe locomotive diesel, dit Bob le mécano, mais il faut l'enlever de la voie de garage réservée à Charlie, monsieur Briggs. Charlie a besoin d'une vidange dès cet après-midi. »«
Charlie n'aura plus jamais de vidange, Bob le mécano, dit monsieur Briggs avec tristesse. « Voici son remplaçant, une locomotive diesel Burlington Zephyr flambant neuve. » Charlie était jadis la meilleure locomotive du monde, mais il se fait vieux et sa chaudière a des fuites. L'heure de la retraite a sonné pour Charlie. J'en ai peur.
Ridicule ! Bob le mécano était en colère. Charlie est encore plein d'entrain. Je vais télégraphier à la direction de la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes. Je vais télégraphier au président, M. Raymond Martin. Je le connais bien, car il m'a un jour remis une médaille pour service rendu à la compagnie. Et Charlie et moi avons emmené sa petite fille en promenade après la cérémonie. Je l'ai laissé tirer sur le cordon, et Charlie lui a offert son plus beau coup de sifflet.
« Je suis navré, Bob, » dit M. Briggs, « mais c'est M. Martin lui-même qui a commandé la nouvelle locomotive diesel. »
C'était la vérité. Et c'est ainsi que Charlie le chouchou fut remisé sur un tronçon de voie dans le coin le plus reculé du dépôt de Saint-Louis, où il rouilla doucement parmi les mauvaises herbes. On entendait désormais le « oink, oink » du Burlington Zephyr sur la ligne Saint-Louis-Topeka, et le sifflet de Charlie restait muet. Une famille de souris fit son nid dans le siège sur lequel Bob le mécano s'était jadis assis avec fierté et depuis lequel il avait regardé défiler le paysage. Une famille d'hirondelles fit son nid dans la cheminée. Charlie se sentait seul et il était très triste. Comme il regrettait les rails d'acier, le ciel bleu azur et les grands espaces. Parfois la nuit, il y pensait et pleurait des larmes sombres et huileuses. Son beau phare Stratham s'en trouva tout rouillé. Mais cela lui était égal car le phare Stratham était vieux et restait toujours éteint. Monsieur Martin, le président de la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes, écrivit à Bob le mécano pour lui proposer de conduire le Burlington Zephyr flambant neuf. « C'est une superbe locomotive, Bob le mécano, une locomotive pleine d'entrain, et c'est vous qui devriez la conduire. Vous êtes le meilleur de tous les mécaniciens de la compagnie,
Et ma fille Susanna n'a jamais oublié le jour où vous lui avez laissé tirer le cordon du sifflet de ce vieux Charlie. » Mais Bob le mécano déclara que s'il ne pouvait plus conduire Charlie, il ne conduirait plus aucun train. « Je ne comprendrai jamais une superbe locomotive diesel flambant neuve, et elle ne me comprendrait jamais. » On lui confia le soin d'entretenir les moteurs au dépôt de Saint-Louis, et c'est ainsi que Bob le mécano devint Bob le dépanneur. Parfois, les autres mécaniciens qui conduisaient les superbes locomotives diesel flambant neuve se moquaient de lui.
« Regardez ce vieil imbécile, disait-il. Il ne peut pas comprendre que le monde a changé. »
Quelquefois, la nuit, Bob le mécano allait dans le coin le plus reculé du dépôt, où Charlie reposait sur les rails rouillés du tronçon qui était devenu sa maison. Les herbes poussaient dans ses roues. Son phare était tout sombre et tout rouillé. Bob le mécano parlait encore à Charlie, mais Charlie lui répondait de moins en moins souvent. Parfois, il ne lui répondait pas du tout. Une nuit, une horrible idée vint à l'esprit de Bob le mécano.
« Charlie, es-tu en train de mourir ? » demanda-t-il. Et Charlie lui répondit de sa voix la plus petite et la plus bourrue.
« Ne me pose pas de questions bêtes, je ne jouerai pas à tes jeux bêtes, je ne suis qu'un brave train chouchou qui est toujours plein d'entrain. Mais je ne peux plus courir sous le ciel d'un bleu d'azur, et je vais rester ici jusqu'à l'heure de ma mort. »
Jake passa un long moment à contempler le dessin illustrant cette révélation prévisible. Ce n'était peut-être qu'une esquisse grossière, mais elle incitait néanmoins le lecteur à sortir son mouchoir. Charlie paraissait vieilli, fatigué, oublié de tous. Bob le mécano ressemblait à quelqu'un qui vient de perdre son meilleur ami, ce qui était le cas, à en croire le récit. Jake imaginait sans peine tous les enfants d'Amérique en train d'éclater en sanglots en découvrant cette scène, et il lui vint soudain à l'esprit qu'il existait plein d'histoires pour enfants contenant des scènes de ce type. Des scènes destinées à plonger le lecteur dans le désarroi le plus total. Hansel et Gretel abandonnés en pleine forêt, la maman de Bambi descendue par un chasseur, la mort d'Old Yeller, le chien fidèle. C'était si facile de faire de la peine aux enfants, si facile de les faire pleurer. Et cette idée semblait éveiller un sadisme latent chez la plupart des écrivains, y compris, semblait-il, chez Beryl Evans. Mais Jake, quant à lui, n'était pas attristé de voir que Charlie se retrouvait exilé dans les terres perdues situées à la lisière du dépôt de la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes. Bien au contraire. « C'est bien fait, pensa-t-il. C'est ici qu'il a sa place. Parce qu'il est dangereux. Qu'il rouille donc sur son tronçon et ne vous fiez pas à ses larmes. Ce sont des larmes de crocodile. » Il acheva rapidement l'histoire. Elle avait une fin heureuse, bien entendu. Mais c'était sûrement cette scène de désespoir que se rappelaient les enfants longtemps après qu'ils avaient oublié le traditionnel happy end. Monsieur Martin, le président de la compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes, vint un beau jour à Saint-Louis pour inspecter les lieux. Il avait l'intention de prendre le Burlington Zephyr pour se rendre à Topeka, où sa fille donnait son premier récital de piano l'après-midi même. Mais le Zéphyr refusait de démarrer. Apparemment, il y avait de l'eau dans son gasoil. « Est-ce que c'est toi qui as mis de l'eau dans le gasoil, Bob le mécano ?» se demanda Jake. « Je parie que c'est toi, espèce de sournois. » Tous les autres trains étaient partis en voyage. Que faire ? Quelqu'un tapa sur l'épaule de M. Martin. C'était Bob le dépanneur. Mais il ne ressemblait plus à un dépanneur. Il avait ôté son bleu de travail taché de cambouis et enfilé une combinaison toute propre. Sa vieille casquette de mécano était fichée sur son crâne. « Charlie vous attend sur son tronçon, » dit-il. « Charlie va vous conduire à Topeka, M. Martin. Grâce à Charlie, vous arriverez à l'heure pour le récital de piano de votre fille. »
« Cette vieille ruine ? »
s'exclama M. Martin. « Jamais Charlie
n'aura fait la moitié du chemin avant la nuit.
Charlie peut y arriver, insista Bob le mécano.
Il peut y arriver s'il n'a pas de wagon pour le retarder. J'ai nettoyé et entretenu son moteur et sa chaudière pendant mes heures de loisir, voyez-vous.
Eh bien, essayons, dit Monsieur Martin. Pour rien au monde, je ne voudrais rater le premier récital de Mademoiselle Susanna.
Charlie était prêt à partir. Bob le mécano avait mis du charbon frais dans son tendeur et son foyer était si chaud qu'il était rouge sur les bords. Il aida M. Martin à monter dans la cabine et, pour la première fois depuis plusieurs années, Charlie quitta son tronçon pour regagner la voie ferrée principale. Puis, alors qu'il prenait de la vitesse, Bob le mécano tira sur le cordon et Charlie poussa son courageux coup de sifflet.
Wouhou !
Tous les enfants de Saint-Louis l'entendirent et sortirent dans leur jardin pour regarder passer la vieille locomotive toute rouillée.
« Regardez !» s'écrièrent-ils. « C'est Charlie ! Charlie le chouchou est revenu ! Hurrah !»
Ils lui firent tous des signes et lorsque Charlie sortit de la ville à toute vapeur, il donna lui-même un coup de sifflet, comme au bon vieux temps.
« Wouhou ! »
Kick-kack, kick-kack, kick-kack faisaient les roues de Charlie. Tchouf, 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 faisait la fumée en sortant de la cheminée de Charlie. Bram, 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 faisait la chaîne qui transportait le charbon dans le foyer. Quel entrain, quel entrain, quel formidable entrain! Charlie n'avait jamais été aussi rapide. Le paysage défilait autour de lui comme dans un rêve. Ils dépassèrent les voitures de la route 41 comme s'ils avaient été à l'arrêt. « Sabre de bois !» s'exclama M. Martin en agitant son chapeau. « Quelle locomotive, Bob ! Nous n'aurions jamais dû la mettre à la retraite. Comment faites-vous pour faire tourner la chaîne aussi vite ?»
Bob le mécano se contenta de sourire, car il savait que Charlie se nourrissait lui-même. Et au milieu des kick-kacks, des tchouf-tchouf et des brom-brom, il entendait Charlie chanter sa vieille chanson de sa petite voix bourrue. « Ne me pose pas de questions bêtes, je ne jouerai pas des jeux bêtes, je ne suis qu'un brave train chouchou qui est toujours plein d'emprunt. Je veux courir le long des rails sous le ciel d'un bleu et d'azur et rester un brave train chouchou jusqu'à l'heure de ma mort. » Grâce à Charlie, M. Martin arriva à temps pour assister au récital de piano de sa fille, évidemment, et Susanna se montra ravie de revoir son vieil ami Charlie, évidemment, et tout ce petit monde regagna Saint-Louis dans la vieille locomotive, Susanna tirant sur le cordon comme une folle pendant tout le trajet. M. Martin trouva du travail en Californie pour Charlie et pour Bob le mécano. Ils embarquaient des gamins pour leur faire faire le tour du tout nouveau parc d'attractions de l'Entre-deux-Mondes et vous pouvez les y voir encore aujourd'hui transportant des enfants ravis dans ce monde de lumière, de musique et de sains amusements. Bob le mécano a les cheveux tout blancs et Charlie parle moins souvent que par le passé, mais ils sont encore plein d'entrain tous les deux, et de temps en temps, les enfants entendent Charlie chanter sa vieille chanson de sa petite voix bourrue. Fin. Ne me pose pas de questions bêtes, je ne jouerai pas à tes jeux bêtes, murmura Jake en contemplant la dernière illustration. Celle-ci montrait Charlie le chouchou tractant deux petits wagons emplis d'enfants ravis qu'il conduisait des montagnes russes à la grande roue. Bob le mécano était assis dans la cabine et tirait sur le cordon du sifflet, heureux comme un goret prenant un bain de boue. Jake supposa que le sourire de Bob était censé exprimer le bonheur suprême, mais il lui trouvait plutôt des allures de rictus de démon. Charlie et Bob le mécano ressemblaient tous les deux à des démons. Et plus Jake examinait leurs passagers, plus leur expression lui rappelait une grimace de terreur.
« Laissez-nous descendre de ce train » semblait-il implorer « par pitié. Laissez-nous descendre vivants de ce train et rester un brave train chouchou jusqu'à l'heure de ma mort. »
Jake referma le livre et le considéra d'un air pensif. Puis il le rouvrit et le feuilleta, soulignant certains mots et certaines phrases qui lui paraissaient particulièrement familiers. La compagnie ferroviaire de l'Entre-deux-Mondes, Bob le mécano, une petite voix bourrue.
Ouhou !
Son premier véritable ami depuis que sa femme était morte à New York il y avait longtemps de cela. Monsieur Martin, le monde a changé. Suzanne. Il reposa son stylo. Pourquoi ces mots et ces phrases lui semblaient-ils familiers ? En ce qui concernait le passage évoquant New York, cela paraissait évident, mais que dire des autres ? Et d'ailleurs, que dire de ce livre ? Il était censé se le procurer, cela ne faisait aucun doute. S'il n'avait pas eu assez d'argent de poche, il l'aurait sûrement volé, il en était sûr. Mais pourquoi ? Il se faisait l'impression d'être l'aiguille d'une boussole. L'aiguille n'a aucune conscience du nord magnétique. Elle sait seulement qu'elle doit se pointer dans une direction donnée, que ça lui plaise ou non. La seule chose dont Jake était persuadé, c'était qu'il était très, très fatigué et que s'il ne glissait pas entre les couvertures, il allait bientôt s'endormir à son bureau. Il ôta sa chemise, puis contempla une nouvelle fois la couverture de Charlie le Chouchou. Ce sourire, il ne lui inspirait aucune confiance.